Merci Seigneur de nous rassembler ce soir pour te louer et te bénir, pour que tu sois au milieu de ton peuple, que tu nous conduises vers ton Père, pour que nous ayons la vie éternelle et que notre joie soit parfaite au ciel. Tout à l'heure, Thibaut disait que, rappelez ces paroles de Jésus, « Demandez, vous recevrez ». Mais le Seigneur ne nous donnera dans ce que nous demandons que ce qui est bon pour nous. Il nous donnera ce qui est bon pour nous. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Donne-nous ton esprit pour que ta parole transforme nos cœurs, qu'elle soit vivante en nous, que nous comprenions que ta parole est vie, qu'elle vient nous guérir, qu'elle vient nous transformer. De l'évangile de Marc au chapitre 2, à partir du verset 13. Jésus sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvait à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes, les pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Quoi il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Voilà, Jésus, durant sa vie publique, a passé son temps à enseigner, à évangéliser, à guérir. Et les foules venaient à lui puisqu'il voyait tous les miracles que Jésus opérait et que sa parole était une parole d'autorité. Les gens ressentaient dans sa parole une autorité, quelque chose de très fort qu'ils ne pouvaient pas forcément définir. C'est pour cela qu'ils suivaient Jésus. Mais Jésus lui-même a voulu avoir des disciples qu'il lui soit plus proche, tout un groupe qui vont le suivre, mais de manière plus proche. Et parmi ceux-là, il appelle cet homme, Lévi, qui est assis au bureau de douane, ça veut dire qu'il prélève des douanes sur les marchandises, les gens qui passent avec des marchandises, qui font du commerce, il prélève des taxes, et il est considéré, Lévi, parce qu'il fait ce métier, par les pharisiens, c'est-à-dire par ceux qui pense être zélé pour la loi, qui étudie la loi, par les pharisiens, par les scribes. Il est considéré comme un pécheur, parce qu'il a un métier qui, dans lequel beaucoup de ses condisciples, peut-être lui-même aussi, volent. Les douaniers à l'époque s'en mettaient plein la poche, parce que ce n'était pas très rigoureux, donc on prenait une taxe, on en mettait un peu plus pour s'en mettre plein la poche. Donc c'était un métier où on volait les autres et où on faisait ce métier finalement uniquement pour gagner de l'argent, pas pour se mettre au service de son pays. Mais Jésus, lui, quand il voit Lévi, il sait bien que cet homme est un pécheur, c'est d'ailleurs ce qu'il dira ensuite, je suis venu appeler les pécheurs, mais il voit que Lévi, certainement dans son métier, étouffe, qu'il aimerait bien faire quelque chose de mieux. Il sent, parce qu'il connaît le cœur de Lévi, il sent en lui quelque chose qu'il a lui-même mis dans son cœur, un désir d'aimer, un désir de connaître Dieu, un désir de recevoir sa parole, un désir de suivre un maître. Jésus sait tout cela quand il passe à côté de Lévi, qu'il le voit. Et la même chose avec nous, ce soir le Seigneur va passer parmi nous. Chacun d'entre nous, il sait ce qu'il y a dans notre cœur, il sait ce qu'il y a de bon, il sait ce qu'il y a de mauvais. Il sait qu'en nous, il y a de grands désirs. Il sait aussi qu'en nous, il y a de grands obstacles à son amour. Tout ça, il le sait. Donc, quand Jésus appelle Lévi, ce n'est pas un choix, je dirais, le choix d'une élite. Il ne choisit pas le meilleur. Il choisit simplement quelqu'un qui est prêt à engager sa liberté pour le suivre. Lévi, c'est un pauvre pécheur. Mais simplement, il est prêt à engager sa liberté pour suivre Jésus. Et Jésus l'appelle et lui dit « Suis-moi ». Lévi aurait très bien pu rester assis sur sa chaise. Et Jésus ne l'aurait pas poussé de sa chaise pour l'obliger à se lever. Peut-être qu'il ne serait même pas revenu pour l'appeler, pas directement. Donc il l'appelle une fois, c'est sa chance. Cette chance de Lévi d'être appelé par Jésus. Et Lévi, il sent au fond de son cœur que cet appel pour lui est providentiel. Il sent que c'est un appel qui est une grâce extraordinaire qui lui est faite. Il a certainement déjà entendu parler de Jésus, il a vu les miracles qu'il faisait. Il a commencé à se faire une petite opinion sur lui, même si elle est partielle. Déjà des éléments de vérité. Il ne sait certainement pas que Jésus est le Messie. Il ne sait certainement pas non plus que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il a quand même perçu dans cet homme quelque chose de grand et de profond. Et il a envie de le suivre. Quand Jésus lui dit « Suis-moi », il se lève aussitôt, ce qui prouve que le Seigneur l'avait préparé depuis longtemps à cet appel. Ça fait longtemps que Dieu préparait Lévi à cet appel que Jésus allait proférer sur lui. Le texte ne dit pas grand-chose. Il vit Lévi, et assis, il lui dit « Suis-moi ». Se levant, il le suivit. C'est pas grand-chose, donc imaginez beaucoup de choses autour pour le comprendre. Ce n'est que la suite du texte va quand même nous aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le cœur de Lévi. Parce qu'une fois que Jésus lui a dit de le suivre, il réunit plein de ses collègues douaniers probablement, puis ses amis, dans sa maison, pour les inviter à déjeuner avec Jésus. Donc là, ça nous montre que certainement, il a vécu quelque chose de très fort, de telle sorte qu'il veut que tout le monde rencontre Jésus. Le texte ne le dit pas, mais on le sent bien. Sinon, il n'aurait pas invité tous ses amis et ses collègues pour qu'il rencontre Jésus. Pour lui, c'est quelque chose d'énorme de rencontrer Jésus. Et donc, tous ses collègues, qui sont eux aussi probablement des voleurs comme lui, ses amis, qui sont aussi considérés comme des pécheurs par les pharisiens, ils viennent à la table de Jésus. Et Jésus ne sélectionne pas ceux qui viennent à sa table. Il prend pas... Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun, mais il ne sélectionne pas, il prend tout le monde, comme on est, avec notre histoire, ses blessures, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Et justement, c'est ça ce qui gêne les scribes et les pharisiens, c'est que Jésus ne sélectionne pas. Ils se disent, si cet homme, on le verra dans un autre passage, ils se disent en deux, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait que tout cela, ce sont des pécheurs. Il mange avec eux. Il se souille en mangeant avec des pêcheurs. Et ils sont scandalisés par ce que fait Jésus. Ils sont scandalisés. Pour eux, c'est un scandale total. Et pourquoi ils sont scandalisés? Ben, ils pensent parce qu'eux, ils sont dans la loi et que Jésus transgresse la loi. Non, c'est ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas vrai. En fait, ils sont scandalisés parce que leur cœur est endurci, parce qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur pour les autres. Ils ne veulent pas que les autres soient sauvés. Eux, ils veulent être sauvés, mais les pécheurs, tous ceux qu'ils méprisent, préfèrent qu'ils aillent en enfer plutôt qu'ils soient sauvés. C'est ça la cause réelle du scandale. Mais si on leur avait demandé pourquoi ils sont scandalisés, ils auraient dit « Nous sommes scandalisés parce qu'ils transgressent la loi, ils mangent avec les pécheurs. » Donc quand on est scandalisé, parfois il y a des bonnes raisons d'être scandalisé, parfois il y a des mauvaises raisons d'être scandalisé. Il faut bien réfléchir. Si on est scandalisé pour une bonne raison, ça peut être parfois une très bonne raison, mais parfois ça peut être aussi une très mauvaise raison. Et donc Jésus entend ces récriminations des scribes et des pharisiens. Et il les entend, il sait ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'il leur dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça veut dire, je suis un médecin, je suis le vrai médecin. Je viens guérir les malades physiques, mais aussi les malades dans leur cœur, parce que tous les hommes sont malades dans leur cœur. Dans tout nos cœurs, il y a de la pourriture qui est liée à notre péché. Et le Seigneur vient guérir cette pourriture. Il vient nous mettre dans notre cœur ce fleuve d'eau vive qui fait que notre cœur va retrouver la vie. Il va revenir vers la vie, sortir des chemins de mort, de désespoir, de critique, de haine, et tout ce qui est de la pourriture dans notre cœur et qui nous empêche d'aimer et de recevoir la vie et la joie. Je suis le médecin. Jésus est le médecin. Il a le chemin, la vérité et la vie, et il est le médecin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et là, on comprend que la condition que Jésus met pour qu'il nous appelle, finalement, il y a quand même une condition. Il n'y a pas de sélection, mais il y a quand même une condition pour que Jésus nous appelle à le suivre vers son Père pour avoir la vie éternelle, pour qu'on aille sur son chemin, il y a une condition, une seule. c'est qu'on accepte de le suivre, mais avant même, il y a une condition, c'est que nous nous reconnaissions pécheurs. On se reconnaît pécheurs. C'est pas celui qui pense qu'il est bien, qu'il n'a pas de problème, il n'a aucune raison de suivre Jésus, ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui vient nous sauver, qui est mort sur la croix pour nous, quelqu'un qui s'estime bien, moi j'ai pas besoin qu'on meure pour moi, il dira, moi je suis bien, moi j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai pas tué mes parents, j'ai pas mis de bombe dans le métro, donc je suis bien. Ouais, mais t'as peut-être autre chose qui sont mauvaises dans ta vie, il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il y a des personnes que tu méprises, peut-être que tu ne pardonnes pas à telle personne, peut-être que tu es toujours critique envers les autres, peut-être que tu as des addictions, etc., etc. Donc celui qui se croit bien, il n'a pas de raison de suivre Jésus. Il n'a pas de raison d'aller chez le médecin. Quand on pense qu'on n'est pas malade, on ne va pas chez le médecin. D'ailleurs, on a raison. Mais Jésus, lui, il est venu pour les malades. Donc il vient pour nous, si nous, nous estimons que dans notre cœur, nous sommes malades. Est-ce que nous savons, est-ce que nous pensons que dans notre cœur, nous sommes malades ? Et si nous acceptons de le croire, Jésus va nous montrer notre maladie, même nos maladies, et progressivement, il va nous guérir. Il ne nous montre pas tout d'un coup, sinon on serait horrifié. Une fois, le saint curé d'Ars avait demandé à Dieu de lui montrer ses péchés. Dieu lui a montré, il a été horrifié. Pourtant, c'est le saint curé d'Ars, c'est pas un gars qui faisait les 400 coups. Hein. Le saint curé d'Ars, un saint, quand Dieu lui montre ses péchés, il est horrifié. Bon, alors, comme nous, on n'est pas saints, moi, je ne suis pas le saint curé d'Ars, donc je préfère que Dieu ne me montre pas tous mes péchés d'un coup, parce que sinon, j'aurai une crise cardiaque. Mais, en tout cas, je lui demande de me les pardonner, et je sais que je suis malade, que j'ai besoin d'être guéri par lui. Voilà. Donc, suivre Jésus, c'est suivre un médecin qui va nous guérir, qui va nous faire parcourir un chemin sur lequel il y a la croix, il y a le calvaire, c'est vrai, il y a la croix sur notre chemin. Mais derrière, il y a la résurrection. Il y a ce magnifique lieu de la vie éternelle. Il y a le bonheur éternel. Voilà, maintenant je vais donner quelques témoignages que j'ai reçus. Donc, par exemple, ce mail de Charlotte. Donc elle m'écrit son mail, dont je vais reprendre l'essentiel. Bonjour, j'habite à Perpignan. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Peut-être parmi vous, il y en a qui viennent de Perpignan ou du sud de la France, loin, ou de d'autres pays. Je suis venu en novembre dernier, 2017, à la prière des malades avec mon père. Je suis revenu le jeudi 22 mars 2018. Avant cette veillée, je me suis confessé à un prêtre. Peut-être au prêtre qui confesse là avant la prière des malades. Cette confession était une des plus belles de ma vie. De celle qui racle le fond de la mare. Vous voyez ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle est allée chercher dans sa confession les trucs qu'on n'arrive jamais à dire. Quoi. J'ai 44 ans, donc ce n'était pas ma première. Très simple et très libératrice. Je tenais à le signaler. J'ai senti la présence de Dieu lors de cette confession. Donc j'étais à Saint-Nicolas-des-Champs, ce jeudi 22 mars, avec mon père, pour prier à nouveau pour ma mère et ma sœur. Lors de la veillée, il y a eu une annonce, elle met ça entre guillemets, en fait c'est une parole de connaissance, c'est une annonce, d'une femme qui souffre depuis longtemps du bas du dos et des hanches. En entendant cette parole, je me suis dit, tiens, il y en a une autre que moi. Ça m'a frappé parce que les hanches, on en parle rarement avec le dos. Je souffre en effet du dos et des hanches, un équilibre très, très fragile chez moi. Elle met entre parenthèses, sciatique au pluriel, problème de bassin, depuis plusieurs années, avec des crises plus intenses. Dernière crise importante, de septembre dernier à mars 2018. Mars 2018, c'est précisément quand elle est venue à la prière des malades. Et dans les secondes qui suivirent cette parole, j'ai ressenti une douceur intense et une grande légèreté dans mon squelette. Plus aucune douleur, ni en m'asseyant, ni en me relevant. Geste que j'ai testé plusieurs fois de suite devant le Saint-Sacrement, comme pour vérifier. Je n'arrivais pas à y croire. Mais d'ailleurs, j'ai toujours d'ailleurs du mal à y croire. J'espère qu'elle va y croire complètement maintenant que le Seigneur l'a guéri. La nuit qui a suivi, j'ai eu beaucoup moins mal. Les heures et les jours qui suivirent, en introspection totale, concentrée sur mes lombaires. Voilà. Et puis ensuite, en y pensant, sans y penser, pensant à autre chose, je découvre que je suis à nouveau libre. Une phrase un peu compliquée, mais parfois notre esprit est un peu compliqué aussi. Elle conclut, donc elle est vraiment guérie, ça c'est ce qu'elle nous dit. J'ai encore un peu de gêne de savoir que le Seigneur s'est penché sur moi. Mais je dois dire la vérité. Et puis pour que la personne qui a dit cette parole le sache. Quand je le pourrai, je reviendrai à cette veillée pour rendre grâce. Depuis ce jour où j'ai été guérie, je sais que je suis vraiment aimée par celui par qui j'espère depuis longtemps être aimée. Et ça change ma vie, Charlotte. Voilà, merci Charlotte pour ce témoignage. Voilà, un autre mail que j'ai reçu de Patricia. Cher Père Thierry, je m'appelle Patricia, je voulais témoigner par cette lettre que suite à mon premier passage au rassemblement de prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, au mois de mai 2015, donc ça fait plus de 3 ans, ma vie a changé. Donc plus de 3 ans après, elle a bien pu vérifier que sa vie avait changé. Je n'ai pas eu de parole de connaissance, mais j'ai reçu ce que j'ai compris être plus tard une effusion de l'Esprit-Saint. Comment dire ? La porte de ma prison s'est enfin ouverte. Je suis passé du noir à la couleur. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Tout a changé pour moi. J'ai été prise, après être sortie de votre rassemblement, d'un véritable engouement pour le Christ que je ne connaissais pas finalement, bien que catholique, entre parenthèses, non pratiquante. Et je me suis mise à faire des choses inhabituelles que je ne faisais plus, ou plutôt que je n'avais même jamais faites. Prier le chapelet, me rendre à la messe en m'émerveillant de tout ce que j'entendais et voyais, m'extasier sur les textes de l'Évangile, les chants, chanter des louanges le matin. Bref, différentes habitudes sont venues se mettre en place dans mon quotidien. Au fil des semaines, j'ai vécu également quelques manifestations nouvelles pour moi, des rêves étonnants, des visions furtives en étant éveillé, des sensations de feu sur le cœur par moments. J'ai également découvert l'adoration, pratique totalement inconnue pour moi jusque-là. C'est suite au témoignage de Théo. Théo, c'est le jeune qui vous a fait chanter la semaine dernière. Il était venu témoigner quelques années. Suite au témoignage de Théo, enregistré sur votre site, que j'ai eu, sur ses conseils, envie d'aller à la chapelle Gay-Lussac. Et c'est là-bas, donc la chapelle Gay-Lussac, c'est une chapelle à Paris, où il y a l'adoration perpétuelle, permanente. Vous pouvez voir sur Internet. C'est là-bas que pour la première fois, devant le Saint-Sacrement, j'ai été attiré vers le sol, j'ai fermé les yeux et je me suis senti enveloppé comme d'un nuage. Ce moment, qui m'avait semblé alors durer un quart d'heure, avait en fait duré plus d'une heure, sans que je m'en rende compte. L'adoration est devenue pour moi un moment incontournable dont je ne peux plus me passer. C'est un vrai moment privilégié passé avec le Seigneur. Je sais qu'il écoute chacun d'entre nous à chaque rencontre et qu'il agit. Il me l'a montré tellement de fois. J'ai obtenu plusieurs grâces, et de toutes mes peines, j'ai toujours été consolé dans les heures ou les jours qui ont suivi une heure d'adoration. Je tenais à témoigner de cela à ceux qui sont dubitatifs. Oui, vraiment, le Seigneur nous attend à l'adoration. Le Seigneur m'a également emmené vers l'évangélisation, ce qui était impensable pour moi il y a quelques années, car je suis très réservé. Aujourd'hui, je le fais avec une grande joie, et ce depuis 3 ans déjà. Je suis engagé dans une cellule d'évangélisation et nous allons dans la rue, notamment pour parler de l'amour du Christ vivant. Enfin, j'aimerais aussi vous confier comment je suis arrivé à Saint-Nicolas-des-Champs, votre groupe de prière. Un soir de mai 2015, je suis rentré chez moi après une journée de travail catastrophique, en larmes et désespéré. Je me suis mis à pleurer comme jamais. Vous voyez qu'il n'y a pas que vous qui pleurez, hein, pour ceux qui pleurent. Et j'ai alors formulé une prière pleine de désespoir et de colère. Je me souviens avoir crié ceci. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Je sais que j'ai plein de défauts, je n'ai sans doute que des défauts. Je ne suis pourtant pas toujours très fier de ce que je fais, mais je suis capable de reconnaître mes fautes, tu le sais. Mais tout de même, j'aime les autres, en tout cas j'essaie. Et vois où tout cela m'a mené. Je suis humilié au quotidien, raillé. Donc c'est dans son travail où elle est humiliée. On ne me respecte plus, on piétine ce que je fais. Pourquoi ? Je croyais qu'aimer c'était le plus important dans la vie. Mais viens fouiller dans mon cœur et vois si je te mens. Alors si c'est ça que ça doit être ma vie, je préfère mourir. Donc elle est un peu comme Job. C'est un peu ce que Job raconte au Seigneur dans le livre de Job. Après avoir pleuré une rivière, je me suis endormi dans les larmes, peut-être pendant une heure, avant de me réveiller plus calme. J'ai soupiré en me disant, me voilà toujours en vie, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je trouve quelqu'un, un médecin. Ben justement, on va trouver un médecin. Quelqu'un qui saura m'aider, sinon je vais devenir complètement dingue. J'ai pris ma tablette, dans la barre de recherche, j'ai tapé trois mots, médecin, guérisseur, Paris. Bon, elle n'a pas tapé prêtre, église, mais elle a tapé médecin, guérisseur, Paris. Et parmi les réponses est apparu nombreuses guérisons miraculeuses à Paris, église Saint-Nicolas-des-Champs. Il y a peut-être d'autres réponses moins terribles, mais voilà, moi, celle-là, elle l'a vue. Je n'avais jamais entendu parler de cette église. J'ai d'abord pensé à ma mère qui est malade avant de réaliser l'extraordinaire réponse à ma prière que j'avais formulée une heure auparavant. Médusée puis tout excitée, j'ai ressenti tout à coup un désir profond, une nécessité d'aller me confesser, chose que je n'avais pas fait depuis plus de 20 ans, et de revenir à l'église alors que je n'y allais plus. En fait, j'avais bien recherché Dieu toute ma vie, mais en boudant bêtement l'église, bien que catholique, je n'y avais pas trouvé ce que je cherchais. Mais chercher Dieu sans passer par le Christ ne pouvait pas mener bien loin. C'était même périlleux. Je ne le comprends que maintenant. C'est une véritable catéchèse que nous fait cette dame. C'est beau. Merci à votre groupe de prière, car depuis, ma vie a enfin pris un sens. Vraiment, j'étais perdu. Et ce groupe de prière m'a permis de retrouver mon chemin, le Christ. Je rends grâce à Dieu pour tout son amour en redisant, et là elle cite la Bible, tu as chanté mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, je te rende grâce. Voilà. Voilà deux très beaux témoignages pour ce soir. Ce sera tout pour ce soir, pour les témoignages. Maintenant, nous allons accueillir Jésus réellement.